Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Le commentaire de
Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
Écoute, Steve, à 10h15, je reçois Alexandre Boulris du NPD. Je vais lui demander, coudonc, êtes-vous rendu une succursale du Parti libéral du Canada, vous autres, là?
Tu lui demanderas aussi en même temps, j'espère, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, parce que la réponse de son chef hier, Jagmeet Singh, là, on peut pas avoir plus woke que ça. Puis je veux dire quelque chose, parce que c'est pas anodin. Laisse-moi faire un petit peu de digression, si tu veux bien, Richard. Oui. Hier, Emmanuel Macron parlait à la Sorbonne. Son discours solennel pour réaffirmer la laïcité, la liberté fondamentale d'expression dans l'université, tout ça. Ce discours-là, c'était un discours d'un homme qui a beaucoup changé depuis son accession au pouvoir. C'était solennel. Mmh. Quel orateur! Il l'a bien livré. Mais sais-tu quoi, Richard? Hier, ça m'a fait penser à quelque chose. Je suis retourné dans les archives et quand j'étais à l'Université d'Ottawa, je te l'ai déjà dit, j'ai suivi un cours sur la négritude et ce courant littéraire-là et je me souvenais que Paulette Nardal, une femme noire, elle avait été la première femme noire acceptée à la Sorbonne. C'était en 1920. Ça fait exactement 100 ans. En fait, elle faisait sa rentrée à ce temps-ci. Première femme noire de l'histoire à la Sorbonne. Je trouvais qu'il y avait là un lien intéressant à faire parce que de ça, j'ai discuté. Ensuite, j'ai envoyé un message à l'ancien prof qui m'avait donné ce cours-là à l'Université d'Ottawa. Il a pris sa retraite depuis, mais c'est encore un vif. C'est quelqu'un avec qui j'aime discuter à l'occasion. Puis il me dit, sais-tu quoi? Il dit, moi, ce courant de censure-là fait en sorte que je ne donnerais jamais le cours sur la négritude dans les conditions actuelles si on m'empêchait de dire le mot nègre. Sais-tu pourquoi? Parce que ce serait faire outrage au combat d'une femme comme Paulette Nardal que de le censurer. Et voilà.
Ouais,
voilà exactement pourquoi c'est absolument essentiel qu'à un moment donné, on remette les pendules à l'heure et qu'on rappelle que quand on censure un mot, c'est toute la nature et c'est toute l'histoire, l'étymologie de ce mot-là qu'on censure. Et on va peut-être aussi taire, on va peut-être tuer dans l'œuf la mémoire de ceux qui se sont battus pour ce mot-là, comme Paulette Nardal, et je tiens à le souligner aujourd'hui.
Écoute, éclaire ma lanterne, qu'est-ce qu'il a dit, le chef du NPD, concernant l'Université d'Ottawa?
Ben écoute, sa position, c'était qu'il se rangeait carrément là. En fait, c'est drôle parce que de plus en plus, lui puis Justin Trudeau deviennent interchangeables. Justin Trudeau s'est rangé derrière les étudiants qui ont accusé et qui militent et qui carrément font une vendetta contre la prof lieutenant Duval. Et puis c'est aussi la position que Jagmeet Singh a pris. Puis à un moment donné, ça devient lassant parce que dans les entrevues, elle est sortie de sa coquille, Madame lieutenant Duval. Puis oui, elle s'excuse et tout ça, mais une fois de temps en temps, j'ai remarqué quand même que c'était intéressant comment elle amenait ça. Une fois de temps en temps, elle ouvre la porte et elle lance quelques critiques. Et hier, à l'émission L'Heure du Monde, on entendait un reportage où justement elle avait parlé à un des journalistes de Radio-Canada puis elle disait qu'elle était quand même, tu sais, elle disait oui, là, les réseaux sociaux, ce qui s'est passé là-dessus, elle avait peur et tout ça, puis elle dit la première communication qu'elle a eue avec l'étudiante plaignante, la première qui s'est plainte, puis on la connaît pas, elle, puis faudrait pas la doxer, c'est pas ça le point, mais peut-être que la faute est ailleurs. Elle dit, dès la première, elle a écrit à cette personne-là, puis elle dit, tout de suite, avant même qu'on ait la chance de discuter ou d'organiser quelconque médiation ou discussion que ce soit, cette étudiante-là, la première qui s'était plainte, elle avait déjà fait des captures d'écran de conversations privées avec sa professeure.
Oui.
Elle avait lancé sur les réseaux sociaux la cabale militante déjà parce qu'elle avait partagé non seulement la conversation, mais des informations personnelles comme le numéro de téléphone et tout ça de cette prof-là. C'est absolument infect. Puis après ça, on va dire que c'est une histoire de racisme où il y a des gens maintenant, là c'est rendu que ça a plus de bon sens. Le titre dans le Toronto Star hier, les professeurs à l'Université d'Ottawa qui sont pas capables de s'empêcher de dire le mot nègre en classe.
Ben voyons donc.
C'est pas, tu sais, je veux dire, là, on est rendu là. On a complètement dérapé. Puis à un moment donné, il faut recentrer les choses. Et je suis content que, vu du Québec, ben, de plus en plus, les gens ont compris ça. Puis qu'on est derrière. Et les gens, en grande majorité, sont derrière ce principe fondamental-là de la liberté complète d'expression. Dans les institutions d'enseignement.
Hey, écoute, dans le Devoir aujourd'hui, je suis tombé en bas de ma chaise, là. Il parle d'un artiste, OK? Un artiste qui attendait là, pour donner une entrevue à Radio-Canada, puis lui, pendant qu'il était là, dans le studio, là, il a entendu l'invité précédent, l'invité qui était juste avant, qui parlait justement de Nègre Blanc d'Amérique, puis de toute cette affaire-là, l'Université d'Ottawa, et qui a prononcé le mot nègre. Et lui, ça l'a choqué, puis il a porté plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. C'est un artiste! C'est un artiste, ouais. Il a porté plainte parce que quelqu'un a cité le titre d'un livre. Il est bien niaiseux.
Il est mieux de pas écouter Cube Radio, puis il est mieux de faire attention à ce qu'il va entendre, parce que sur d'autres antennes aussi, parce que de plus en plus, moi, je vois des gens qui ne se censurent plus et qui disent, savez-vous quoi, à un moment donné aussi, ce mot-là, on comprend, il y a des susceptibilités, mais en même temps, il ne faut pas toucher à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, je salue le recteur Jutras de l'Université de Montréal, qui hier, dans une longue lettre, l'a bien exprimé. Il a fait cet arrimage-là, difficile à faire, cet équilibre-là, difficile à faire, mais essentiel. Entre les susceptibilités, mais en même temps aussi sans jamais ne toucher à la liberté fondamentale d'expression et d'enseignement dans les universités.
Et là, Manon Massé qui a dû se rétracter, là.
Oui, ben c'est ça. Je suis content qu'on glisse vers ça parce que au départ, moi, j'avais vu la première réaction de Manon Massé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Donc, elle arrivait un peu, je trouve, à faire cet équilibre-là. Mais surtout, elle défendait là dans ses mots la liberté d'expression à l'université, la liberté académique. Et là, elle s'est fait ramasser. Écoute, c'est pas rien là, quand même quand on y pense là. Et déjà, il y a un collectif dans Québec solidaire qui s'appelle. Laisse-moi, je vais le retrouver parce que c'est pas quelque chose que je suis habitué de voir. En tout cas, c'est un collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire. Puis là, au départ, ce qu'avaient fait ces gens-là, c'est qu'ils s'étaient dissociés des propos de Manon Massé, la porte-parole, lorsque celle-ci justifie l'utilisation du mot en haine dans un contexte académique, sans consultation des instances de son parti qui travaille sur le sujet, nommément ici le collectif antiraciste décolonial de QS. Et là, ces gens-là se sont mis à travailler en coulisses pour finalement attaquer leur co-porte-parole. Et donc là, elle s'est rétractée, Manon Massé. Puis eux, ben après ça, ils prennent ça puis ils disent, ben voilà, c'est une victoire pour notre collectif dans le parti. La prochaine fois, consultez-nous donc avant de tu sais, pour pas vous causer une telle gêne sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis là, je me disais, mais quelle bande d'abrutis ces gens-là, ça n'a pas de sens. On verrait pas ça dans un autre parti que Québec solidaire. Puis quand c'est arrivé, quand il y a des gens comme, tu sais, on se souvient à l'époque, là, le groupe de Marc Laviolette au PQ, puis dès qu'il y avait un conseil, on savait qu'il se lèverait, puis là, ce bordel prendrait. Puis les gens mettait la loupe là-dessus, puis là, ben dans certains médias fédéralistes, on aimait ça, regarder ce qui se passait au PQ, puis se moquer d'eux autres. Mais il n'y a personne en ce moment qui relève qu'est-ce que Manon Massé vient de se faire à l'intérieur de son propre parti. Je veux dire, c'est une méchante gifle là, qu'elle a mangée. Là. C'est pas anodin.
Mais tu sais, c'est incroyable. Ils doivent s'excuser, puis se demander pardon. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'enseignante de l'Université d'Ottawa.
Oui.
Elle a dit que j'ai erré, puis finalement, elle a donné raison à ses adversaires. Là, où...
Ben, les censeurs et les militants, là, même s'ils sont minoritaires en ce moment, les gens qui sont vraiment, là, qui travaillent d'arrache-pied pour qu'à un moment donné, je sais pas, mais on en arrive à censurer ce mot-là. Après ça, on voit peut-être qu'on va censurer le mot indien la prochaine fois, mot loi, pourquoi pas. Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir qu'ils fassent un glossaire, ces gens-là, des mots à censurer, puis on... Mais, ça nous mène dans un cul-de-sac, cette histoire-là. Puis c'est dommage parce que j'ai parlé avec une personne avec qui je suis ami personnellement, qui milite dans le comté de Solzanetti à Québec. Puis c'est drôle parce que ça fait quelques reprises que cette personne-là me dit la même chose. Ces groupuscules-là, il dit cette personne-là me disait, vu de Québec, là, nous, on voit pas ça. T'sais, on n'est pas là-dedans. Ils militent pas dans le parti quand nous, on est là. Puis c'est plate parce que cette personne-là insistait, disait, à un moment donné, parce que c'est l'expression qu'on disait hier, c'était, comme disait hier, c'était le ciment craque. Puis on me l'a dit deux fois, ça, le ciment craque, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de voir quand des choses comme ça arrivent dans leur parti. Puis il y a des francs militants qui, par exemple, eux, sont pas du tout d'accord avec ça, comme il y en avait des francs militants qui étaient pas du tout d'accord avec le volte-face de ce parti-là sur la laïcité, par exemple. Mais à un moment donné, ils se taisent. Puis ils se taisent devant les plus militants, devant les plus écervolés du bocal qu'il y a dans ce parti-là. Et ça commence à déranger.
Puis, mais est-ce que la gauche va se scinder en deux? C'est-à-dire, il va avoir un parti de gauche qui il va avoir les pieds sur terre, puis un parti de gauche plus radical avec la tête dans les nuages?
Ben, en tout cas, on verra, parce que là, on est encore assez loin des élections, mais à un moment donné, ce parti-là, il va y avoir d'autres instances, puis c'est quand on verra par exemple, là, un peu plus proche des élections, là, à, je sais pas, 14 mois, tu sais, 12 mois des élections. Puis on va voir des sondages, puis des sondages régionaux. Et si ça se confirme, la tendance qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que par ses positions très, très montréalocentristes, si ce parti-là continue à garder des comtés sûrs autour de Concordia puis de l'UQAM, mais que partout ailleurs au Québec, ça ne fait plus aucun sens, parce qu'il n'aurait pas pu gagner Québec solidaire des comtés comme Sherbrooke ou en Abitibi ou à Québec avec les positions qu'ils défendent en ce moment. On voit quand même que ce parti-là s'est radicalisé après la campagne de 2018. Puis Manon Massé n'a jamais eu à défendre, par exemple, la position actuelle du parti sur la laïcité quand elle était dans un débat des chefs. Pensez pas que Jean-François Lisée l'aurait mangé tout rond. Mmh. Il l'aurait mis à terre avec une position comme ça. Fait qu'on on savait que ça s'en venait chez Québec solidaire, mais de façon cynique, on a attendu d'être élu avant de changer ça. Parce que ça n'aurait jamais passé. Ça, tout le monde le sait.
Écoute, on va parler de Justin Trudeau. Oui. Son bilan éthique est épouvantable. Moi, là, regarde, que le NPD, mettons, l'a appuyé au lendemain du discours du trône parce qu'ils ont arraché des concessions. T'sais, bon, on sait comment ça fonctionne, un gouvernement minoritaire. Là, t'arraches des concessions. Pis ça. Mais là, ils ont appuyé le Parti libéral puis ils n'ont eu aucune concession, là, aucun gain, le NPD, là.
Ben, rien. Écoute, non, mais là, c'est il faut comprendre une chose. Puis notre caricaturiste Y, quand il dessine Jack Meeting qui fait la chaise de Justin Trudeau, puis Justin Trudeau qui est assis sur son dos. Je veux dire, tu sais, il y a des fois des caricatures qui valent bien un éditorial de 1000 mots. Ça, c'en est une. Et tout le monde a compris que non seulement l'ascendance de Jack Meeting dans son propre parti décline, mais certainement en politique. Tu sais, il est sympathique. Les vidéos en skateboard, tout ça.
Oui.
C'est ce qu'il fait sur TikTok, c'est sympathique, mais je veux dire, en politique, Jack Meeting conduit le NPD à l'abattoir, puis ça, je pense que c'est de plus en plus accepté, et c'est reconnu, je veux dire, dans le parti, il y a des gens qui sont là, puis qui se disent, moi, je lis les journaux anglais, puis là, ce qu'on lisait, par exemple, dans le National News Watch ce matin, c'est que les conservateurs, ils ont décidé qu'ils lâcheraient pas le morceau, ils vont trouver une manière de poser, de revenir à la charge, parce que le bilan éthique de Justin Trudeau, oui, c'est vrai que les sondages en ce moment n'avantagent pas le Parti conservateur, sauf qu'on se dit que c'est un bilan qui est absolument indéfendable.
Indéfendable, moi, là. Écoute.
C'est non seulement indéfendable, mais admettons cette chose-ci, que les partis d'opposition ont, par exemple, entre les mains des trucs qu'ils veulent absolument sortir pendant une campagne électorale pour ébranler Justin Trudeau. Et là, moi, c'est là où je me dis, parce qu'on travaille en coulisses du côté des conservateurs pour revenir à la charge puis proposer une deuxième motion de censure pour essayer de défaire le gouvernement. Et là, en faisant ça, à un moment donné, Jack Meeting, même devant ses propres troupes, s'il continue à se coucher devant Justin Trudeau, il va se passer deux choses. Il va perdre, à un moment donné, même son il n'y aura plus de légitimité à l'intérieur de son propre parti. T'sais.
Ben non, on dirait que c'est une succursale du Parti libéral. On ne voit pas la différence vraiment entre le Parti libéral du Canada et le NPD. Là.
Mais hier, ça faisait pitié. Une autre chose aussi, pendant qu'on est là-dedans, une autre chose, par contre, moi, que j'ai remarqué, Erin O'Toole, là, on disait, quand il était en campagne, on disait, oui, mais tu sais, son français, tout ça, il va être capable. Il a besoin du Québec, mais il ne passera pas au Québec. C'est atroce. Je suis désolé, là, mais il n'y a aucun niveau conversationnel. Puis même quand il lit son texte, je veux dire, c'est très, très difficile. C'est laborieux. Et ça va être difficile à vendre au Québec. Pourtant, lui, il a besoin du Québec. Pendant ce temps-là, Yves-François Blanchet, lui, il se frotte les mains parce que il sait fort bien que Justin Trudeau va avoir beaucoup de difficultés sur les questions éthiques. Et les questions éthiques, c'est quelque chose qui résonne au Québec, ça. Là-dessus, en tout cas, c'est pour ça que de leur côté, ces deux partis-là, Yves-François Blanchet, lui, il s'en va demain matin en élection, puis il n'y a aucun problème à le faire.
En tout cas, jusqu'où le NPD va aller pour défendre? C'est bien beau se boucher le nez, mais à un moment donné, là, quand ça pue au bout, puis tu continues à défendre un gouvernement comme ça, qui est indéfendable, je trouve ça incroyable. En tout cas, à 10h15, je vais parler à Alexandre Boulris. Merci beaucoup.
J'écouterai ça.
Bonne journée, Steve.
Salut. Merci. Bien.